Agathe, qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie ?
Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie ? Ah, waouh, quelle question. C'est ça ta première question ? Ok. Qu'est-ce qui me fait marcher ? Tu veux dire marcher avancer ou marcher physiquement ?
Je veux rien dire, c'est une question ouverte.
Ah, c'est une question ouverte, d'accord, désolée. Je crois que c'est l'envie de découvrir des choses. La curiosité me fait beaucoup marcher. L'envie de fabriquer, de faire, et puis de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux gens. D'aller à la rencontre, ça me fait avancer et marcher.
Ça peut se faire à vélo ?
Ça peut tout à fait se faire à vélo, mais à vélo, on ne prend pas le même temps de rencontrer, de s'arrêter, de voir les gens. Et puis c'est dur de peindre en vélo, je pense. Donc à vélo, non, c'est chouette, j'aime beaucoup faire du vélo aussi. Mais t'as pas le même genre de rencontre. T'as plus une perception de ton entourage, de ce que tu traverses, mais pas la même possibilité de t'arrêter et d'aller à la rencontre de la personne que tu croises.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Agathe Oléron, la réalisatrice de La Dame de Saint-Lunaire, interview enregistrée lors de la 39e édition du Festival de cinéma de Douarnenez. Je pensais enregistrer une interview avec une réalisatrice, et en fait, c'est la peintre qui s'exprime en premier, ou en première.
Ah, peut-être.
Non, ce que je te dis, c'est la peinture.
Ouais, je parle de faire de la peinture en vélo, ou même de dessiner, hein, parce que pour moi, c'est important de toucher la matière et de fabriquer, de créer, de peindre, de dessiner, de coller, de mélanger les matières. Avant d'utiliser une caméra ou un ordinateur, j'aime beaucoup sentir les choses. Donc les sentir ou les ressentir, c'est-à-dire les vivre, être dans l'immersion, être en présence de gens, de témoins, de matières photographiques, de visuels, d'écrits. Et puis pouvoir composer. Et effectivement, les premières idées arrivent souvent sous forme d'images et un besoin de gratouiller le papier pour pouvoir dessiner quelque chose.
Nous sommes au lendemain de la projection de ton premier film. Qu'est-ce qui s'est passé avant ?
J'ai fait les Beaux-Arts à Rennes. J'étais aux Beaux-Arts de Rennes et j'ai un DENCEP en option communication à Rennes.
DENCEP, c'est ?
DENCEP, c'est un diplôme national d'études supérieures d'art plastique, je ne sais plus exactement, d'études plastiques, je crois. DENCEP.
C'est-à-dire que plus on fait des études, plus l'intitulé est compliqué et moins on le retient.
Ouais, disons que c'est surtout le diplôme qui a un intitulé compliqué. En tout cas, c'était les Beaux-Arts, école d'art, quoi. Et puis après, en fait, pendant les Beaux-Arts, je me suis intéressée beaucoup aux films d'animation que je voyais, que j'essayais de reproduire toute seule dans mon coin, dans ma cuisine, avec des petits bouts de brins d'herbe, de cailloux, de fourchettes, de n'importe quoi, tout ce qui me tombait sous la main, et de faire des petits films d'animation qui racontaient des histoires, souvent des histoires de cirque, de ce qui se passait dans un cirque, comment est-ce qu'on pouvait jongler, faire des acrobaties, être à la limite de, et tomber. Et voilà, donc à la fin des Beaux-Arts, j'ai envoyé des VHS, parce que c'est en 2000, à deux sociétés de production rennaises qui s'appellent JPL Film et Vivement Lundi, et qui avaient fait des films que j'avais remarqués et que j'avais beaucoup aimés. Le Cyclope de la mer de Philippe Julien, produit par JPL Film, et L'homme au bras ballant de Laurent Gorgiard, produit par Vivement Lundi. Donc voilà, je suis partie en me disant « je veux travailler avec eux ». Et j'ai pu assez rapidement travailler avec eux. Donc à partir de 2000, j'ai beaucoup travaillé avec Laurent Gorgiard, entre autres, sur des séries d'animation, sur de la bande-annonce. Bande-annonce notamment du Festival du film court de Brest en 2001. Création d'affiches, de visuels, etc. Et puis en assistante de réalisation sur mon week-end raté à Lisbonne, qui faisait le petit film d'ouverture du festival Travelling Lisbonne en 2002. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur plein de films d'animation où de temps en temps j'étais décoratrice, accessoiriste, mais pas que, ou assistante réal, je pouvais être aussi co-réal en fonction du projet, mais sur du format très court cinéma d'animation. Et puis voilà, après il s'est passé pas mal de choses, notamment le décès de Laurent Gorgiard en 2003, été 2003, qui a fait que j'ai remis beaucoup de choses en question par rapport à ce que je voulais faire dans la vie. j'ai arrêté un petit peu de bosser en cinéma d'animation pour refaire une année d'études au Gobelin à Paris. Et avant, apprendre à parler anglais dans des studios gallois, à Cardiff, chez Calon TV. Voilà.
Parce que l'accent gallois est particulier, non ?
L'accent gallois est très proche de l'accent breton. Ça dépend de quel breton on parle. Mais en tous les cas, pour moi, il y a beaucoup de mots en gallois qui sont très proches du breton. Ce qui fait que mon niveau d'anglais étant pitoyable en arrivant au Pays de Galles, je réussissais à me repérer sur les panneaux par les mots en gallois. Par exemple, on dit le feu de la même manière, on dit tan pour le feu, et en fait, c'est pareil en gallois. Et donc, c'était assez drôle de voir ça.
Tu es bilingue ?
Absolument pas. Non, en fait, j'ai bossé sur des séries d'animation où je m'occupais de la partie animation des mots pour une série qui s'appelait Petra Lares, qui était coproduite par Vivement Lundi, JPL Film et TV Braise, à l'époque de TV Braise, au tout début. Et donc, en fait, on avait une centaine d'épisodes où il y avait des mots français-breton. J'ai découvert un peu le breton grâce à cette série d'animation. En fait, que j'ai commencé à travailler, je voulais réaliser des films. Et puis ça s'est jamais présenté. Et puis les sujets que j'avais eus à des périodes, je les ai mis très vite dans des cartons parce que ça me semblait pas intéressant. Mais je cherchais surtout sur des scénarios de fiction, faire des films en cinéma d'animation. Et en fait, dans mon parcours, j'ai travaillé avec quelques réalisateurs de films documentaires. Moi, j'étais dans l'équipe pour faire des créations de génériques, des créations d'habillage graphique, mais aussi des mises en images des archives, des animations d'archives. Le travail avec ces réalisateurs de films documentaires m'a ouvert beaucoup l'esprit. Je ne me sentais pas vraiment en phase de bosser tout le temps dans des studios dans le noir, parce que c'est beaucoup ça le cinéma d'animation, ou devant des écrans d'ordinateur à faire des choses image par image. Je trouvais que j'étais en finale pas complètement surprise par ce qui se produisait, parce qu'une fois que le scénario d'un film d'animation il est écrit, il est acté en animatique ou en storyboard, et ben après on tourne, on fait, on fabrique, mais on n'a plus de liberté de création du tout. Et ça m'ennuyait beaucoup, parce que c'était pas ce que je souhaitais trouver dans mon métier, dans ma vie. Sur des moments où j'avais plus de boulot en intermittence, j'étais serveuse en bar, une cuisinière en bar. Et ça m'a permis d'apprécier d'être en contact avec beaucoup, beaucoup de gens et de pouvoir échanger sur des morceaux de vie. Et ça me plaisait beaucoup. J'avais beaucoup de satisfaction à être dans les bars, à discuter, à servir des gens et à discuter de leur vie avec eux. Souvent, il y avait des anecdotes très chouettes et puis je trouvais ça beau. Et je me suis demandé pendant assez longtemps comment est-ce que je pouvais retrouver ça dans mon métier. Et en fait, le documentaire tendait vers ça. Tendait vers une attente que je pouvais avoir de ce genre de rencontre, mais pas que. Il y avait aussi dans le documentaire, pour moi, une certaine possibilité de se libérer au niveau créatif, dans la mesure où on n'a pas une forme documentaire définie, comme on peut avoir une forme de fiction, une forme d'animation, où on écrit le scénario, il y a ces étapes-là. La grande question, ça a été comment on peut s'amuser pendant un tournage de film. Qu'est-ce qui va faire que je vais être enjouée du début à la fin sur la création d'un film ? Et en fait, en réalisant mon film, donc mon premier film, ça fait 4 ans que je travaille dessus, qu'il a été fini en juin dernier, j'ai retrouvé toutes ces satisfactions d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir échanger, de pouvoir donner une libre forme, on va dire ça comme ça, au film que je souhaitais faire.
Oui, mais là, tu mets en avant tous les aspects un peu positifs, chaleureux d'un projet.
Ouais.
Mais pour réaliser un documentaire, c'est prise de tête.
Alors ça, je veux bien qu'on n'en parle pas, s'il te plaît. Je préfère pas.
Je souligne que c'est pas aussi rose que ça.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
On n'est pas obligé d'en dire plus.
Bah, on n'est pas obligé d'en dire plus. En tous les cas, effectivement, de faire un film, c'est pas que un aspect rose et un aspect de rencontre, etc. Il y a des financements à aller chercher. Si on veut travailler en bonne entente avec les gens qu'on exploite, il faut pouvoir les payer. Donc, voilà. Donc, mon film, il a été financé par la région Bretagne, par le Conseil général des Côtes d'Armor, par les chaînes télé bretonnes, le CNC, la ProSirep, l'Angoa. Voilà, avec cette enveloppe de budget, il y a un producteur qui prend les choses normalement en main et qui mène le projet en accompagnant le réalisateur pour qu'il puisse avoir lieu et cours avec les moyens financiers qui sont mis à contribution. Est-ce que messieurs, dames sont allés sur le festival?
Non, on est passé devant, mais on ne s'est pas arrêté.
Ça vous intéresse ?
Non, pas vraiment. C'est du cinéma genre indépendant.
Non ? Voilà, entre autres, mais pas que. Il y a du documentaire. Il y a des films, parce que cette année, la thématique, c'est la Turquie. Donc, il y a des films de fiction, de création, documentaire, des cours, des formats plus indépendants et plus hors normes. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a des choses très belles. Et il y a un super lieu de rencontre sur une place dans le centre de Douarnenez aussi.
Avec les tentes, machin.
Voilà, ouais. Et des concerts.
Antoine,
oui.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnages?
Oui, je suis accompagné déjà avec des fous furieux, là.
En quoi ils sont fous furieux?
Je peux pas dire ça. Je garde ça pour moi. Ça, c'est dans notre intimité, notre cocon.
Mais d'autres anonymes qui ne sont pas présents?
Non, non. Non. Des artistes, vous voulez dire?
Des gens en marge.
En marge, ouais.
Non, pas vraiment. Je connais bien une artiste qui fait des dessins, des œuvres en dessinant, quoi. Mais c'est quelqu'un de normal, on va dire. Elle est raisonnée, je sais pas.
Des maisons hantées à Lille?
Il y en avait une, mais ils l'ont abattue. Elle était à côté de la voie rapide, alors voilà. Terminé, plus de maison.
La maison avec les grands trucs...
Elle était toute grise.
Est-ce que vous aviez déjà vu à côté de la voie rapide à Lille un monsieur qui faisait des sortes de fusées ou des sortes de missiles en métal?
Ah ouais, direction Armentières.
Ouais.
Et c'est de l'art paysan. C'est un paysan qui était là et qui faisait ces trucs avec des avions de récup. Ouais, je vois, ouais.
Vous l'aviez vu?
Oui, il est mort.
Il est décédé. Oui, il est décédé il y a 2 ans.
Ouais.
Donc je sais pas s'ils ont retrouvé des gens pour reprendre parce que la famille voulait pas tout détruire, donc je sais pas où ça en est, faudrait se renseigner.
Mais on voit toujours des choses quand on passe sur la voie rapide.
C'est un peu délabré maintenant.
Vous n'avez jamais eu la curiosité d'aller rencontrer ce monsieur?
Non. Non, en fait c'est quelque chose qu'on voyait depuis qu'on est tout petit. À chaque fois qu'on va à la mer, on prend cette autoroute. Donc à chaque fois on regarde comme ça, mais on s'arrête pas, quoi. C'est vrai.
Et qu'est-ce qui fait que ça pourrait donner l'envie à un réalisateur ou une réalisatrice de faire le portrait de ce monsieur?
Alors là, j'en sais rien du tout. Je suis incapable de répondre à cette question.
Pas mal comme transition.
Pour expliquer, parce que comme vous n'avez pas vu le premier film d'Agathe, on va d'abord dire que c'est aussi un souvenir de jeunesse.
Oui. Et ce qu'on peut faire, c'est je peux montrer une photo de cette maison et de la femme.
Antoine, vous allez décrire la maison.
Et c'est où? Au Kosovo?
Non, c'est à Saint-Lunaire, c'est juste à côté de Dinard, sur la côte nord bretonne.
D'accord. Ça fait un peu tiers-monde. Un peu tiers-monde. Tellement c'est délabré, quoi. Il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur de ça?
Qui vivait, oui.
Qui vivait, oui.
Et qui construisait.
Oui.
Et à l'intérieur, c'est aussi fou qu'à l'extérieur?
Oui.
Et il y avait une cuisine, une salle de bain?
Ah ouais.
Question importante. Eh ben oui, il y avait une cuisine, une salle de bain, il y avait un lit, il y avait tout, toutes les commodités à l'intérieur pour y vivre.
Il a mis du temps pour faire ça?
Elle a mis 40 ans.
Elle aurait dû demander de l'aide. Je crois, non?
Vous l'auriez aidée?
Si c'était une amie, oui. Si c'est une inconnue, certainement pas.
En 40 ans, on a le temps de se faire des amis autour de chez soi.
Ouais, normalement. Et peut-être, je sais pas si elle en avait, si elle en avait pas.
Nous accompagnons dans la rue Agathe Oléron, la réalisatrice de La Dame de Saint-Lunaire, Interview enregistrée lors de la 39e édition du Festival de cinéma de Douarnenez. Pour décrire la maison,
bah, c'est un... pour moi, quand je vois ça, c'est un taudis, quoi, parce qu'il n'y a rien de droit. Il y a des trous dans les murs. Je sais même pas s'il y a des fenêtres. On dirait des barres ici, des barreaux, mais je sais pas s'il y a des fenêtres, je crois pas. C'est plus un abri, quoi, qu'une maison.
Et là, vous voyez le poteau EDF ?
Oui, ouais, je le vois, ouais. Elle a construit autour ?
Oui.
Ouais.
Et il y a des arbres aussi dans la maison.
En tout cas, j'habiterai pas là-dedans.
Et si c'était votre voisine ?
Ouais, ça me dérangerait pas. Moi, je lui parlerai. C'est pas parce qu'elle vit dans un... enfin... un taudis, ouais. Je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai pas de préjugés sur la façon dont les gens vivent. Donc, si elle a envie de vivre comme ça, elle vit comme ça. Mais faut être courageuse, je pense. Parce que ça doit être beaucoup de... comment ? Enfin, ça doit être difficile au quotidien. Donc, moi, ça m'embêterait.
Ben voilà. En train de construire sa maison.
Mais je suis pas sûr qu'elle sache ce qu'elle fait vraiment, en fait, là. Hein ? Elle bricole. Elle bricole, mais comme elle le sent, non ?
Elle a fait une maison très très haute, quand même, avec un mirador. Et elle a construit pendant 40 ans, et c'était solide, encore plus solide que les maisons environnantes, parce qu'il y avait des blocos, comme il y a eu la guerre 39-45 qui est passée par là, il y avait des blocos et puis des mines sur la plage de Longchamp, qui était juste à côté. Ils ont fait sauter les blocos à la dynamite. Toutes les maisons environnantes ont fissuré, sauf celle de cette dame-là.
Ouais, mais bon.
Pour habiter une maison, je suis pas sûr qu'elle ait besoin de résister à l'explosion des mines, et etc. quoi. Un mur, ça doit suffire, quoi. Il suffit de l'isoler un peu. Parce que là, il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Il doit faire froid l'hiver.
Il y a de l'eau qui rentre aussi.
Ouais, donc les conditions... c'est le Moyen-Âge, quoi.
On peut dire ça. Voilà. Elle a trouvé une satisfaction à le faire, et puis c'était sa vie de faire sa maison.
Si c'est sa façon de vivre et qu'elle est bien comme ça, qu'elle se fasse plaisir. Hein.
Avec un regard de gamin, on pourrait s'imaginer que dans cette maison, il s'y passe des choses étranges.
Avec un regard de gamin, peut-être, ouais. Ouais, ouais.
Mais vous l'avez perdu.
Non, justement, je pense pas. Mais là, ça m'inspire. Ça m'inspire pas. C'est pas un endroit que j'aurais envie d'aller fouiller en étant gamin. Je sais pas.
Parce que c'était vraiment la passion des enfants quand la maison existait, que la femme existait, de passer devant la maison, ou des fois d'aller chercher un objet dans la maison pour le ramener en trophée, pour dire j'ai pas eu peur, j'y suis allée.
Ouais. Donc en défi,
Les défis. Ouais. Donc c'était vraiment de ce genre de défi qui était lancé entre les gamins, les vacanciers, parce que c'est une station balnéaire et il y avait beaucoup de vacanciers l'été, mais c'est aussi un lieu de vie et tous les enfants connaissaient cette maison, les ados, les adultes. Elle a été le sujet d'une chanson de Dominique Sonic, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un chanteur qui est toujours actuel, hein, qui fait toujours des chansons, mais qui faisait partie du groupe des Kalachnikovs dans les années 80. Les gros mouvements de rock rennais.
D'accord, je connais pas.
Voilà, d'accord. Et là, c'est quoi comme oiseau qui vient de plonger ? C'est un footbassin, non ? C'est un cormoran ?
Ouais.
Il n'est pas noir.
Il n'était pas noir ?
Non. Il avait un bec différent du cormoran.
Ah, parce que depuis tout à l'heure, ici, il y avait quelques cormorans qui traînaient et qui plongeaient. Donc je sais pas. Il faut attendre qu'ils réapparaissent maintenant.
Ouais. Ouais.
Il a du souffle.
Ouais. Regarde, il est pas noir.
Oh.
Il a le dessous blanc comme ça.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est. Youp.
Est-ce que pour relancer le tourisme, il faudrait construire plusieurs maisons comme ça ?
Non, je pense pas. Non.
Et pourtant.
Ça pourrait... Non, si on avait plusieurs, ce serait pas pareil. Je pense que là, elle se différenciait par son unicité, cette maison, tout de même. Et ouais. Qu'elle attirait parce qu'elle était unique.
Donc, vous venez du Japon.
Il y avait des quarts de Japonais qui venaient voir la maison. Ouais. Là, c'est un article qui est paru en 2013 où on voit à nouveau la maison. Et la maison aujourd'hui.
Ah, ils l'ont abattu. Oui. Ils ont tout refait, quoi.
a moins de charme.
C'est pas la même. Vous préférez laquelle ?
Ben, ni l'une ni l'autre en fait, parce que celle-là elle est trop classique aussi. Elle a aucun charme quoi. C'est une construction récente comme ils font un peu partout et il n'y a pas d'intérêt quoi. Enfin, à la voir sur photo comme ça, je sais pas comment c'est à l'intérieur. Mais. Ni l'une ni l'autre. Moi je suis habitué aux briques rouges chez nous donc peut-être c'est pour ça. Je sais
des
pas.
Des toits en tuiles ou des toits en ardoise ?
En tuiles chez nous aussi.
En tuiles, ok. Mmh. Donc plus dans la tuile et la brique. Ouais.
Je suis habitué à ça, c'est peut-être.
C'est plus dur de faire autrement. Et dans sa maison à elle, il y avait de la brique. Des vraies briques rouges.
Il y a un peu de tout.
Là, c'était le Mirador, en fait, qui est tout en briques rouges. Presque. Sauf le toit.
Chapitre. Tu as passé ton enfance où ?
J'ai passé mon enfance entre Lorée de Brocéliande, enfin, aux portes de Brocéliande à Montfort-sur-Meux, et le bord de mer entre Dinan, Dinard et Saint-Malo, d'où mes parents étaient originaires, et où on avait une maison, où on passait tous nos week-ends et toutes nos vacances scolaires en fait là-bas. Dans la mesure où, à Montfort-sur-Meux, mes parents étant profs, on avait un logement de fonction, un appartement, qui était situé au-dessus du lycée où travaillait mon papa. Et donc il n'y avait pas trop de cours pour jouer, il n'y avait pas d'endroit extérieur pour jouer, donc on allait tous les week-ends et toutes nos vacances à côté de Saint-Lunaire. Voilà. Et donc à la plage, plus fréquemment à Lancieux qu'à Saint-Lunaire même, mais j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps en extérieur dans ce coin-là que sur Montfort-sur-Meux, en fait. À Montfort, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était toutes les légendes, toutes les histoires qu'il pouvait y avoir dans la forêt, parce que je trouvais ça assez beau. Ces histoires de Merlin l'Enchanteur, de forêt de Barenton, de tout, de Chevalier de la Table Ronde, de Fée Viviane, de Fée Morgane. Et puis, à Saint-Lunaire, quand on était par là-bas, que mes grands-mères se mettaient à discuter avec mes tantes, mes grandes-tantes, ma maman, elles parlaient tout le temps d'une femme qu'elles appelaient la folle, qui vivait à Saint-Lunaire et qui avait fait une maison assez improbable. Elles en parlaient un peu en cachette, un peu tout bas. Et ma cousine et moi, on adorait écouter ce qu'elles racontaient et on se faisait notre histoire. Donc on venait toutes les deux de Montfort et on avait forcément des histoires assez similaires à se raconter. Puis on aimait bien se faire peur, comme beaucoup d'enfants. C'est un grand plaisir de se faire peur quand on est petit. Et donc cette histoire de folle, elle nous intriguait. On entendait que si on déposait des pelotes de laine devant sa porte, elle pouvait tricoter en une nuit un pull. Et on le retrouvait devant sa porte le lendemain matin. On racontait qu'elle avait emmuré son mari vivant dans les murs de sa construction. On racontait qu'elle était folle, qu'elle avait fait des choses pendant la guerre. On racontait plein de choses. Nous, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire « folle », mais ça avait l'air d'être mystérieux puisqu'on en parlait tout bas. Et on ne la voyait jamais, cette maison. Donc on avait fini par se l'imaginer. Moi, je me l'étais imaginé un petit peu comme le palais idéal du facteur cheval, parce que mon parrain vit dans la Drôme, à côté de Haute-Rive, où existe ce palais idéal. Donc c'est un palais qu'un facteur a construit de ses mains, avec des petits cailloux qu'il ramassait sur son trajet en revenant de sa tournée de distribution de courrier. Et il a érigé comme ça, petit à petit, je ne sais plus si c'est 40 ou 50 ans, un palais qu'on appelle le palais idéal du facteur cheval, qui est inspiré de plein de palais du monde entier. Et ce palais, en fait, il a été classé par Malraux. Donc c'est un monument qu'on peut toujours visiter. Et donc je l'avais visité étant petite. Et quand j'entendais parler de cette femme, ça me faisait penser peut-être qu'elle avait une construction comme le palais idéal du facteur cheval. Et quand j'étais en CE1, donc ça c'était des histoires un peu avant, des bribes de souvenirs en fait. Quand j'étais en CE1 avec ma classe de Montfort-sur-Meux, on est parti en classe de mer à Saint-Lunaire. Et on a passé une dizaine de jours à Saint-Lunaire. On était logés dans le centre de Saint-Lunaire, dans une magnifique petite maison qui s'appelait le Petit Manoir, une sorte de petit château. Mais comme il y en avait beaucoup à Saint-Lunaire, Saint-Lunaire, c'est un petit peu à l'image des villages ou des petites villas de Dinard ou des contes de fées, des Walt Disney. On est un peu dans l'univers des Aristochats ou de La Belle et le Clochard. Voilà, un côté très cossu, très mignon. Et puis, il y avait cette folle. Donc, il y a un côté charmant à Saint-Lunaire et puis en même temps, il y avait cette histoire de folle. Je pense que j'étais la seule des enfants à être un peu au courant de cette histoire. Et c'est pour ça que quand on est passé devant la maison avec mon groupe, les Hirondelles de Mer, en allant découvrir la faune et la flore à marée basse sur la plage de Longchamp à Saint-Lunaire, on est passé devant la maison de la folle. Donc je voyais pour de vrai la maison de la folle pour la première fois. Et la constructrice, cette dame qu'on appelait la folle, était devant la maison. À ce moment-là, je ne savais pas comment elle s'appelait. Donc pour moi, c'était la folle. Elle avait quelque chose sur la tête. On voyait juste ses deux yeux qui brillaient, puis elle souriait. Et elle avait des très grandes mains. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais très déçue en fait en voyant cette maison, parce que je me l'étais tellement imaginée autrement que là, ça me semblait juste être un gros tas de sable, une sorte de grand château de sable mal fait, et qui en plus était à côté de la mer. Et que comme tout château de sable se trouvant à proximité de la mer allait monter, il y avait de grandes chances que ce château de sable soit englouti par les vagues. Et du coup, ça m'a fait très peur. Ça m'a fait peur, mais toujours une peur agréable. Et la femme était là, elle nous a souri. Elle était contente de voir un groupe d'enfants devant sa maison. Donc elle nous a fait rentrer dans l'entrée de sa maison. C'était en 1985. Et donc on est rentré dans ce que je suppose être un couloir. C'était pas une pièce, c'était une sorte de couloir. Et moi j'ai cru qu'elle était peut-être la sorcière de Blanche-Neige, ou peut-être la sorcière de la maison en pain d'épices, et que la mer allait monter puisqu'on était à marée basse, et que quand la mer serait haute, on serait tous les enfants là, engloutis dans son château, dans son grand château de sable, tous ensemble. Et en fait, on est sortis de la maison. Son but, c'était forcément pas de nous engloutir, mais voilà. Et cette peur que j'ai ressentie à ce moment-là, cette angoisse, elle est restée présente et en même temps tellement agréable que j'ai essayé de la retrouver en rentrant à Montfort. Donc après ma classe de mer, à Montfort-sur-Meux, je cherchais toutes les maisons que j'appelais les maisons hantées de Montfort, donc des maisons abandonnées. Et puis, on peut le dire à la radio maintenant, c'était il y a fort longtemps, donc je cassais un carreau de la maison s'il n'y avait pas de carreau de cassé, j'essayais de trouver des clés, si j'en trouvais, ben c'était bien, si j'en trouvais pas, on rentrait par les fenêtres. Et puis on faisait notre enquête avec mes copines et ma petite sœur dans ces maisons abandonnées, que j'appelais les maisons hantées. Elles avaient tout un nom. Mais jamais j'ai retrouvé ce contact que j'ai pu avoir avec cette dame de Saint-Lunaire en 85 du haut de mes 7 ans. J'ai fait des carnets, j'en avais fait aussi pour la maison de Saint-Lunaire que j'ai jamais retrouvée. Mais du coup, j'ai encore des traces de carnets, de découvertes de maisons hantées à Montfort-sur-Meux. On s'était fait piéger par la municipalité, qui s'était aperçu que les fenêtres s'ouvraient bizarrement de toutes ces maisons-là. Et puis ma petite sœur, qui avait pour mot d'ordre de ne jamais rien dire à personne, parce que sinon elle ne viendrait plus avec les grands dans explorer les maisons hantées, s'est mise à faire beaucoup de cauchemars la nuit, et elle nous a dénoncé aux parents. Voilà. Enfin, elle m'a dénoncé, parce que c'était un peu moi l'instigatrice de ces explorations. Voilà. Donc ça, c'est le souvenir d'enfance, enfin, le souvenir de cette maison de Saint-Lunaire.
Merci à Agathe Oléron et merci à
Antoine
pour leur libre participation à ce reportage enregistré à l'occasion de la 39e édition du Festival de cinéma de Douarnenez. À noter sur votre agenda que La Dame de Saint-Lunaire sera projetée en présence d'Agathe Oléron le samedi 4 mars à 14h30 au manoir d'exposition Les Renaudières à Carquefou.